Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Au cours du troisième millénaire, le monde changea. Le climat, les frontières, tout fut bouleversé. Notre planète se transforma en un désert brûlant et toxique.
De quoi doute le climato-sceptique ? De l'imminence de la catastrophe annoncée ? De la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique ? De l'existence même d'un dérèglement climatique ? De notre capacité à contenir une évolution jugée néfaste ? Et surtout, qu'est-ce qui le motive ? Le bon sens ou l'insolence ? À mes côtés aujourd'hui, pour vous saluer ceux qui travaillent tous les jours pour cette émission, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Lucie Tardy, Colomba Grossi, avec Mydia Portis-Guérin, cette semaine à la réalisation, Clément Daté à la prise de son aujourd'hui, et Géraldine Mesnil-Savoie aux 2 minutes. Papillon, bonjour à vous Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Tout à l'heure, une double actualité Claude Lévi-Strauss, une biographie et une correspondance parues respectivement chez Flammarion et au Seuil.
On vous retrouve à 10h51. En harmonie avec de nombreuses émissions de la chaîne qui s'accordent cette semaine pour réfléchir sur le climat, continuons et terminons aujourd'hui notre exploration philosophique des enjeux climatiques. Après les pas si folles théories climatiques d'Aristote, lundi avec David Lefebvre, par de la nature et culture, mardi, deux et avec Philippe Descola, et Dominique Bourg hier qui s'est interrogé sur la possibilité d'une démocratie écologique, terminons cette semaine climatique en interrogeant la pertinence du scepticisme en la matière. Arguments scientifiques et philosophiques à l'appui. Alors s'il vous paraît difficile de prendre les sceptiques au sérieux, s'il vous paraît scandaleux de minimiser l'ampleur des dégâts à venir, Jean-Pierre Dupuy vous proposera ses arguments. Bonjour à vous Jean-Pierre Dupuy.
Bonjour.
Si en revanche le consensus autour de la responsabilité de l'humanité dans l'évolution du climat vous pèse, si vous doutez du bien fondé scientifique des propos des lanceurs d'alerte, Benoît Rito saura attirer votre attention. Bonjour à vous Benoît Rito.
Bonjour.
Jean-Pierre Dupuy, vous êtes devenu philosophe après une formation à Polytechnique et au Corps des Mines. Vous êtes l'auteur de « Pour un catastrophisme éclairé, quand l'impossible est certain », paru au Point Seuil, et puis cette année, en 2015, toujours au Seuil, « Petite métaphysique des tsunamis ». Et quant à vous Benoît Rito, vous êtes mathématicien, maître de conférences à l'Université Paris 13, auteur du « Mythe climatique », c'était au Seuil il y a quelques années, et « La peur exponentielle » qui vient de paraître aux presses universitaires de France.
Considérant que nous atteignons le point de non-retour en matière de changement climatique et que nous devons passer des intentions à l'action, nous appelons solennellement tous les États à travailler concrètement et rapidement pour lutter contre le changement climatique, en particulier contre ses impacts. Et nous les invitons à présenter leurs contributions prévues, déterminées au niveau national en fonction de leur situation et capacités nationales respectives.
L'idée de la vérité étant attachée naturellement à celle de la science, l'on ne manque pas de prendre pour vrai ce que proposent ceux qui ont la réputation d'être savants. Et comme le nombre de ceux qui ne le sont que de nom est beaucoup plus grand que de ceux qui le sont en effet, le commun des hommes qui compte seulement les voix se range du côté des premiers et embrasse d'autant plus volontiers leurs opinions qu'elles se trouvent plus conformes à celles dont il est déjà imbu. Les poètes et les orateurs n'ayant pour but que de plaire et de persuader, la vraisemblance leur suffit à l'égard du commun des hommes. Ainsi, l'exagération et l'hyperbole étant très propres à ce dessein, en grossissant les idées selon qu'on en a besoin, ils font le bien et le mal petit et grand comme il leur plaît. Les ornements dont ils accompagnent leur discours contribuent merveilleusement à leur attirer la créance de ceux qui ne sont point sur leur garde. Ils parlent avec facilité et avec grâce, et emploient certaines manières, lesquelles étant belles, agréables et peu communes, éblouissent l'esprit et l'empêchent de discerner la vérité.
Alors oui, il peut paraître surprenant de commencer une émission sur le climato-scepticisme avec un extrait de François Poulain de la Barre, un extrait de son ouvrage « De l'égalité des deux sexes ». Et pourtant, Benoît Ritot, c'était une suggestion que nous avons suivie avec plaisir, car il est vrai que l'argument qui est déployé dans ce texte nous sera utile pour cette émission. Dites-nous en quoi.
Eh bien, pour tout ce qui concerne cette affaire de climat, l'un des principaux arguments qui est avancé, c'est celui du consensus. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout un argument scientifique, évidemment, parce que la science ne procède pas par consensus. C'est un argument d'abord de nature politique. Et il est intéressant de voir que, quand on étudie l'histoire, aussi bien l'histoire des sciences et plus généralement l'histoire des idées, que les consensus sont pas toujours faux, mais souvent faux. Et celui-là est assez peu connu, c'est celui qu'évoque Poulain de la Barre, c'est l'idée selon laquelle les hommes seraient supérieurs aux femmes, qui faisait consensus plus ou moins tacite sans doute à l'époque, et qu'il essaye de dénoncer dans ce livre qui est repris par Simone de Beauvoir au milieu du XXe siècle. Ça, j'aime bien cet exemple parce que c'est un exemple assez neutre, ça n'est pas un exemple excessif comme on peut en trouver dans l'histoire des sciences, où il y a des consensus beaucoup plus sombres qui se sont développés dans l'histoire. Et c'est aussi amusant de voir que bien ces jours-ci, parce que c'est un petit peu la saison, la mode des appels en tout genre pour sauver la planète. Il y a un appel d'associations féministes qui prétendent que sauver la Terre et favoriser l'égalité homme-femme, c'est un peu la même chose. Je caricature à peine. Ben, c'est intéressant de voir que ces associations-là, sans le savoir, s'appuient sur un consensus qui est, à mon sens, de même nature que celui de Poulain de la Barre.
Voilà que dans le texte, l'argument principal, quand même, consiste à dire que nous prenons souvent l'apparence et la vraisemblance pour la vérité elle-même. Est-ce que c'est une des choses, Benoît Ritot, que vous reprochez à ceux que vous nommez les carbocentristes, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'effectivement il y a, vous allez me dire d'ailleurs ce que vous pensez qu'ils pensent, mais dont vous contestez finalement le caractère urgent de l'appel à l'aide finalement, tellement l'imminence de la catastrophe climatique est importante. Est-ce que c'est une des choses que vous leur reprochez, savoir de prendre la vraisemblance pour de la science? Est-ce que c'est un argument scientifique d'abord que vous prendriez?
C'est un petit peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'on a affaire dans cette histoire à l'alliance entre des scientifiques et des politiques. Et comme à chaque fois que ça se produit, ça affaiblit la science. Ça fait qu'on oublie les principes fondamentaux de la science au profit de la morale. Aujourd'hui, si on est climato-sceptique, on est amoral, on est un méchant. On n'est pas seulement quelqu'un qui se trompe, à qui il faudrait mieux expliquer, ce qui est normal dans un débat, on est un méchant. On a eu, il y a quelques jours à peine, un livre est sorti accompagné d'un appel, et c'est au seuil, sans doute Jean-Pierre Dupuy va nous en parler, parce qu'il a signé cet appel. C'est un appel à stopper les crimes climatiques, et où les climato-sceptiques sont désignés sous le nom de climato-négationnistes. Donc on n'est plus du tout dans la discussion normale et on n'est même pas dans camp contre camp. C'est parce que l'un des deux camps, en l'occurrence ceux que j'appelle carbocentristes, mais il y a plusieurs nuances évidemment chez eux, on est dans la criminalisation. On veut interdire la réflexion. Et on dit vraiment aujourd'hui, il faut agir, il n'est plus temps de réfléchir, on veut agir. Alors quand ça vient de la part de politique, pourquoi pas, mais quand ça vient de la bouche de scientifiques, de penseurs, de gens qui sont en principe plutôt contemplatifs, c'est en réalité très inquiétant.
Jean-Pierre Dupuy, qu'est-ce qui vous paraît irrecevable dans la position du climato-scepticisme, et en particulier celle de Benoît Ritot qui est ici présent?
Je propose que nous ne parlions pas trop en termes de métasciences, sociologie des sciences, etc. Parce qu'il y a suffisamment, en 50 minutes, il n'y a pas beaucoup de temps pour parler vraiment de ce qui est important, à savoir de l'épistémologie, de la science climatique elle-même. Ça va nous... Bon, parce que si on commence à parler de métasciences, des rapports impurs entre science et politique, on va pas s'en sortir et on va pas parler des choses vraiment importantes. Parce qu'alors, on peut se renvoyer les arguments, n'est-ce pas ? À la fin de votre livre, vous dites, du point de vue scientifique, les carbocentristes ressemblent de plus en plus à des cadavres qui marchent. Alors j'imagine que ça s'adresse à Josel, à Le Treut, etc. C'est pas très sympa. Bon, alors je propose que nous... Attendez, je propose que nous ne parlions pas de ça. Parce que les arguments
Parlons
moralisent...
pas de quoi alors de quoi ah ben, ne voulez-vous pas parler
d'épistémologie.
Non mais de quoi ne voulez-vous pas parler?
Des accusations mutuelles, d'idéologie, de moralisme, etc. C'est pareil des deux côtés.
L'appel à stopper les crimes climatiques, il vient de votre côté.
Attendez.
Et il a 15 jours.
Attendez, moi je propose, si vous me parlez de mes écrits, je propose que vous parliez de mes livres.
Vous avez signé cet appel.
Attendez.
Vous avez signé cet appel.
Il y a un accord, au moins, avec Benoît Riteau, c'est le fait que le consensus n'est pas en soi un signe de vérité. Bon, ça c'est clair. Bon, cela dit, vous avez dit la plupart du temps les consensus sont douteux.
Non, je n'ai pas dit ça.
Bon, vous avez dit la plupart du temps.
Non,
bon. Mais attendez, si vous me permettez de parler.
Ne déformez pas mes propos et je vous laisse parler.
Alors,
Jean-Pierre Dupuis.
Bon, il y a quand même des consensus sur, je ne sais pas moi, la validité de, certaines validités de la théorie de la gravitation universelle de Newton, bien que nous sachions aujourd'hui qu'elle est fausse. Bon. C'est-à-dire que même les idées que nous tenons pour la plupart comme non pas vraies, mais raisonnables, pour vaincre, on pourrait vraiment faire l'histoire, je sais pas moi, de la révolution galiléenne, le principe d'inertie. Si vous lâchez un kilo de plomb et un kilo de plume du haut de la tour de Pise dans le vide, il n'y a pas de vide évidemment, ils tomberont exactement à la même vitesse, c'est-à-dire que la force ne crée pas le mouvement, mais crée l'accélération, pour que ces idées que nous tenons aujourd'hui comme base de la mécanique rationnelle percent, il a fallu des institutions, il a fallu de lobbies, etc., etc., et nous les tenons pour vrai. Donc, l'existence d'un consensus n'est en soi signe ni de vérité, ni de fausseté. Bon. Alors, nous sommes d'accord là-dessus. Donc, la seule chose qui compte, c'est la qualité philosophique et scientifique des arguments.
Alors allez-y, justement,
alors,
précisément.
Bon, alors voilà. Alors, il y a un point sur lequel nous sommes d'accord. Et je propose que nous partions de ce point d'accord. Et ça, je le dis contre beaucoup de climato, comment les appelez-vous, centristes.
Carbocentristes.
Oui, carbocentristes. À savoir qu'il y a énormément d'incertitudes là-dessus. Bon, l'incertitude est le maître mot. D'ailleurs, j'ai écrit un rapport, deux rapports même pour le GIEC, à la demande de Josel et de Michel Petit, sur la nature philosophique de l'incertitude de la science climatique. Il y a énormément d'incertitudes.
Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on soit d'accord sur ce point.
Attendez.
Alors voilà, Jean-Pierre, présentez votre argument et ensuite Benoît Riteau donnera son avis.
Voilà, simplement cette incertitude, comment dirais-je, vous la prenez pour de l'ignorance.
Voilà.
Moi, je la prends pour de l'indétermination. Alors, il y a une distinction philosophique classique, mais qu'il faut rappeler, entre l'incertitude épistémique et l'incertitude objective, liée au phénomène. L'incertitude épistémique, c'est ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Alors, vous m'interrogez, quelle est la capitale du Brésil ? Rio de Janeiro ? Non. Buenos Aires ? Non, je ne sais pas. Quand je dis « je ne sais pas », je dis que je sais que je ne sais pas. Mais il existe un autre type d'incertitude qui est lié à l'indétermination des phénomènes, et qui, elle, est objective, et pour laquelle il peut très bien se passer que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Un peu comme la tache en perception, si vous voulez, comme la tache aveugle au milieu de la rétine, où nous ne voyons pas, mais nous ne voyons pas que nous ne voyons pas. Bon, alors c'est cette incertitude-là qui, moi, m'intéresse, l'indétermination à laquelle arrive la science du climat. Et c'est elle qu'il faut vraiment, qui est au cœur même des questions de scepticisme et de vérité.
Alors,
je pourrais en parler beaucoup plus, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, alors juste, Benoît Riteau, sur ce point, est-ce que pour vous, cette incertitude telle qu'elle vient d'être décrite par Jean-Pierre Dupuis est une raison de douter du caractère scientifique de la catastrophe climatique à laquelle nous nous attendons ?
Alors, le mot incertitude est effectivement mis un peu à toutes les sauces. On est, à mon avis, plutôt dans une situation d'ignorance, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas suffisamment le climat pour prétendre prévoir son avenir. D'ailleurs, on ne l'a jamais fait. C'est la première fois qu'on nous dit que ce que sera le climat dans 50 ou dans 100 ans. C'est-à-dire, c'est la grosse différence avec la confiance qu'on peut avoir. Vous citiez tout à l'heure la mécanique classique, ou la mécanique relativiste, c'est-à-dire que ce sont des sciences qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont fait des prévisions, qui peuvent en faire et qui sont vérifiées. Là, on n'a jamais fait ça. Donc c'est, on peut y croire, je ne suis pas contre l'idée qu'on essaye, mais qu'on y croit en disant bah, c'est la science, c'est les gros ordinateurs, c'est les modélisateurs, c'est le consensus, c'est extrêmement abusif d'un point de vue épistémologique. C'est une science jeune qui n'a pas encore fait ses preuves, ce qui est tout à fait normal parce que le système climatique, c'est probablement un des systèmes physiques les plus complexes qu'on connaisse. Ce n'est pas pour rien que dans les années 60, la théorie du chaos, dont on parle moins, mais qui a été une vraie révolution intellectuelle aussi bien en mathématiques qu'en physique et dans les sciences de la nature, la théorie du chaos, l'un de ses premiers objets, ça a été un article de Lorenz, où il s'intéressait à la circulation et il essayait de faire des modèles de climat. Ça n'est pas pour rien. On parle de l'effet papillon. Tout le monde connaît l'effet papillon aujourd'hui. Papillon qui bat des ailes en Nouvelle-Zélande et un mois plus tard, il y a un tsunami ou quelque chose. Parce que les effets sont imprévisibles et donc ça vient. Donc la métaphore de l'effet papillon, elle vient de la météorologie, elle vient du système météorologique climatique. Ça n'est pas un hasard. C'est vraiment le système très complexe. Alors aujourd'hui, on nous dit les incertitudes, oui, enfin les scientifiques sentent bien, enfin, ou les carbocentristes en général sentent bien qu'ils ne peuvent pas afficher trop ouvertement leur dogme, parce que c'est devenu en réalité un dogme, et donc ils essayent de montrer qu'ils sont capables de recul sur leur propre travail, et effectivement parlent d'incertitude. En gros, l'incertitude pour eux, c'est est-ce que l'apocalypse aura lieu en 2050 ou en 2060? Je caricature un petit peu, mais c'est ça.
Oui, c'est une caricature. Hein.
Je le présente comme caricature pour aller vite, mais tout le monde comprend mon propos. C'est-à-dire qu'en gros, là, on nous a dit, oui, la mer va monter de 2 mètres, mais on ne sait pas si c'est dans un siècle ou dans 2 siècles.
Donc c'est surtout le caractère de prévisibilité qui vous...
Donc la prévision, et puis est-ce qu'on est vraiment dans une situation d'incertitude ou est-ce qu'on est plutôt dans une situation d'ignorance? Est-ce qu'on a vraiment suffisamment compris les systèmes climatiques pour faire des prévisions? Si on compare les prévisions qui étaient faites il y a 30 ans à ce qu'on a observé aujourd'hui, ça ne colle pas. Il y a tout un tas de choses qui ne collent pas. Vous avez entendu parler, sans doute comme moi, du fait que la température globale de la Terre est à peu près stable depuis 15 ou 20 ans. Ça, personne ne l'a annoncé.
Bon, on nous dit aujourd'hui, bien sûr, à cela parce que ça devient un peu trop.
Bien sûr, non, mais attendez, laissez le terminer.
Mais si vous voulez, le problème que j'ai avec les climato-sceptiques, c'est qu'ils ressassent toujours les mêmes arguments. Ces arguments, vous les tenez de. Enfin, vous.
Vous avez l'occasion de dire en quoi vous n'êtes pas d'accord avec cet argument, alors allez-y.
Les climato-sceptiques les répètent depuis 15, 20 ans.
Pour la température,
attendez, mais laissez-moi.
Allez-y.
J'ai lu votre livre avec intérêt. Je n'ai rien trouvé dans votre livre que je n'ai déjà lu chez les climato-sceptiques américains, qu'on appelle d'ailleurs là-bas les climate change deniers, c'est-à-dire les négationnistes du changement climatique.
Que vous reprenez à votre compte?
Attendez, mais si vous voulez pas d'attaque ad hominem,
vous attaquez en parlant de négationnistes. Vous attaquez, c'est une attaque assez grave et je suis pas sûr que vous en rendiez compte.
Non, je n'ai pas dit que c'était des négationnistes.
Vous avez climate signé change l'appel deniers. Qui en parle.
Attendez, s'il vous plaît, je voudrais répondre.
Argument par argument. Vouliez parler du livre de Benoît Ritot, Le mythe climatique,
exactement.
Jean-Pierre Dupuis.
Alors, bon, donc je disais, je n'ai pas vu un seul argument qui n'ait déjà fait l'objet de discussions et de réponses. Vous avez été déjà, vous avez discuté avec Jean Jouzel, avec Hervé Le Treut, etc. On vous a répondu. Vous avez une très bonne bibliographie dans votre livre. Et le lecteur non averti doit avec des centaines d'articles qui tous vont dans le même sens. Le lecteur non averti doit se dire « Oh là là, c'est quand même une force extraordinaire, le climato-sceptisme. » Et scepticisme, pardon. Mais le problème, c'est qu'il y a à peu près 100 000 articles qui vont dans l'autre sens et dont vous ne dites pas un mot, et en particulier qui réfutent tout ce que vous dites, et en particulier cet argument qu'il y a eu une pause dans l'augmentation de température. Bon, il y a des articles qui sont parus encore la semaine dernière dans Science, Nature, etc., qui montrent que cette pause est une invention, est un artefact, comme on dit en science, c'est-à-dire qui est lié au type d'observation qu'on a fait, au type de mesure, etc., etc. Bon. Alors, je voudrais parler, moi, de l'incertitude, parce que vous dites que c'est un point absolument essentiel, et vous dites c'est l'ignorance. Alors, j'ai quand même fait une distinction, j'aimerais que vous la preniez au sérieux. La distinction entre incertitude épistémique et incertitude objective. Alors, il y a un exemple de cela qu'on retrouve à peu près dans tous les problèmes de risque et les problèmes environnementaux, et dont moi j'ai à traiter dans le cadre de mes fonctions de président de la commission d'éthique de l'autorité, enfin de l'Institut de... le Centre de recherche de l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN, c'est des événements de probabilité extrêmement faible, avec des magnitudes extraordinaires. Bon, dans le nucléaire, il y a deux cas, deux illustrations de cela. C'est la probabilité d'un accident type Tchernobyl ou Fukushima, et les conséquences sont énormes. Bon, le cas dual, comme on dirait en mathématiques, c'est le cas d'une catastrophe, ou d'une situation qui crée des dommages sur un très grand nombre de gens, disons 10 millions, mais pour chacune de ces personnes, infiniment peu. Dans un cas, c'est infini par zéro par l'infini, dans l'autre cas, infini par zéro. Alors, vous avez un chapitre sur le pari de Pascal, et que vous concluez de manière assez extraordinaire en disant zéro probabilité a priori que Dieu existe, par exemple, mais l'enjeu est infini, et vous dites zéro multiplié par l'infini est égal à zéro. Alors, et vous citez Émile Borel, qui fut un très grand probabiliste et un très grand vulgarisateur des mathématiques, comme vous, et que j'ai lu dans les années 50-60. Mais enfin, Émile Borel est né en 1870-75. Depuis, dans la pensée de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, on a fait de sacrés progrès. Alors, je voudrais parler de ça, justement.
Quel est le problème, avec cette référence à Pascal.
On est dans la philosophie, là, véritablement. On est dans la philosophie. D'ailleurs, ce dont je vais parler, c'est quelque chose qui, en philosophie française, est bien connu. Bien connu de ceux qui connaissent la philosophie. C'est le révérend père Dominique Dubarle, dans sa conceptualisation et formalisation de la dialectique hegelienne, qui a utilisé cette technique qui s'appelle l'arithmétique non standard, qui est une manière de traiter les infiniment petits et les infiniment grands.
Bien connu, je ne sais pas. Alors, dites-nous.
Bon, alors, j'explique. J'explique ceci qui est un point absolument essentiel. Et j'aimerais qu'on discute de ce genre de choses.
Voilà, proposez-le pour que Benoît Rito puisse répondre.
Alors, pour ne pas ennuyer les auditeurs, je vais prendre un exemple, justement. Qui est un exemple que le mathématicien américain John Allen Paulos a pris, et c'est un texte, un article dans le New York Times, lors de la campagne électorale entre Al Gore et Bush, n'est-ce pas? Où il y avait indécidabilité, puisque le nombre de voix qui aurait fait basculer la victoire de l'un dans l'autre était inférieur à la précision des instruments de mesure, de vote et de comptage des votes. Alors, il prend l'exemple suivant. C'est une histoire, c'est un gardien de musée au Muséum d'Histoire Naturelle de New York, disons, qui présente aux visiteurs le grand tyrannosaure qui est là, au milieu. Et il dit, ce tyrannosaure a 70 millions et 6 ans. Bon, les gens acceptent cela. Puis un jour, il y a une petite fille qui dit, mais enfin, vous êtes sûr, 70 millions et 6 ans? Et il répond, bah oui, ça, j'en suis sûr. Parce que quand j'ai pris mon job ici, on m'a dit qu'il avait 70 millions d'années, et ça, c'était il y a 6 ans. Bon, alors, ça fait rire, évidemment, parce que...
Quelle est la conclusion? Mais ça fait un petit moment que vous parlez, il faut laisser aussi la parole à Benoît.
Oui, mais il faut que je finisse mon raisonnement.
Justement, hein. je vous invite à le faire.
Bon. 70 millions et 6 ans. Un tyrannosaure qui a 70 millions et 6 ans, il a 70 millions d'années. Cependant, les 6 ans en question, ils ont une importance. Car si je répète ces 6 ans 1 million de fois, j'obtiens 70 millions et 6 millions, ce qui fait 76 millions, qui est nettement différent. Or, vous, tout se passe dans votre raisonnement, en disant infini par 0 égale 0, comme si vous comptiez les 6 ans en question comme 0. Alors, les philosophes ont reconnu la nature, cet exemple, c'est ce qu'on appelle le paradoxe Sorit, ou le paradoxe du tas. Deux pierres ne font pas un tas. Si j'ajoute une pierre à un non-tas, j'obtiens encore un non-tas. Et pourtant, qu'est-ce que c'est qu'un tas? On peut le faire avec un chauve aussi, avec les cheveux. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un tas? C'est un ensemble de pierres. Bon. Donc, vous tombez là en disant infini par zéro égale zéro dans le paradoxe du Sorit. Les conséquences de ça, dans le cas de Tchernobyl, sont énormes. Le chiffre officiel des morts de Tchernobyl, c'est 48 morts. Parce qu'on ne compte pas l'effet de ce qu'on appelle les faibles doses qui affectent chaque personne. Il y en a 10 millions dans la zone contaminée. Infiniment peu, mais il y a beaucoup de personnes. Si vous dites que c'est zéro, ce qu'a fait effectivement le forum Tchernobyl, vous obtenez zéro. Zéro.
Donc là, ce sont sur les moyens de calculer contestez l'argument. Alors, Benoît Rito. Bon, laissons
c'est pas les
Benoît
moyens de calculer, Rito. C'est la philosophie même de l'infiniment petit et de l'infiniment grand.
Non, alors, évidemment, je suis absolument pas d'accord avec ça.
Dites-nous.
Mais je vais essayer de le dire de façon plus simple et plus concise. Le chapitre auquel vous faites référence répond à l'argument on n'est pas sûr. C'est un argument qu'on nous donne souvent. C'est bon, j'explique, les températures sont stables, quoi qu'en dise Jean-Pierre Dupuis. Il y a tout un tas de choses qui collent pas. Bon, bref. Et les gens sont en général assez ouverts à ça. Mais en désespoir de cause, quand on veut sauver cette croyance, on dit oui, bon, on n'est pas sûr, mais si c'était vrai, alors les conséquences seraient telles qu'on ne peut pas se permettre de ne pas agir. Et ça. Je dis
ce
que
n'est pas ce que j'ai dit du
Attends,
tout.
Mais est-ce que je peux remplacer
Laissons-le parler.
J'ai parlé d'épistémologie mathématique. J'ai pas parlé de catastrophe.
Non, moi, je parle de climat parce qu'on est venu ici parler de climat. Vous nous parlez de tyrannosaures, c'est bien, mais moi, je parle de climat.
Benoît Rito, allez jusqu'au bout de votre développement.
C'est ça l'argument qui est donné. Et j'ai essayé de montrer dans ce chapitre de mon livre que c'est un raisonnement qui revient au pari de Pascal. C'est-à-dire, on ne sait pas si Dieu existe, mais si on fait un calcul de probabilité, on a intérêt à y croire. Et Pascal, quand il évoque ce fameux pari, il se fait vraiment mathématicien.
Et
c'est le grand fondateur des probabilités aussi. Donc c'est pas un hasard. C'est même intéressant de voir que c'est le premier exemple d'application des probabilités à autre chose que les jeux de hasard, c'est la théologie, ce qui est assez extraordinaire. Donc le pari pascalien, c'est il y a une petite chance. Mais pour un gain infini, si Dieu existe effectivement et qu'on choisit d'y croire. Donc c'est structuré de la même façon. Le pari de Pascal, il est incorrect. On nous le sert à toutes les sauces, parfois même explicitement dans cette affaire de climat. On revient effectivement à Pascal, sans penser que le défaut de Pascal, du pari de Pascal, c'est un défaut mathématique qu'il ne pouvait pas connaître à son époque parce qu'on a eu les outils mathématiques pour comprendre seulement au début du XXe siècle, fin du XXe, début du XXe siècle. Et j'explique que en réalité, tout vient du modèle qu'il essaye de calquer sur l'existence ou non de Dieu comme une sorte de pile ou face, de jeu de hasard. Alors qu'en réalité, il y a d'autres modèles mathématiques recevables aussi pour décrire cette situation. Et dans ces autres modèles mathématiques, zéro fois l'infini égale zéro, c'est-à-dire que le pari ne marche plus.
Mais je commence par l'arithmétique non standard.
Est-ce que je peux finir mon raisonnement? Bien sûr. Donc, il existe des modèles mathématiques probabilistes dans lesquels le pari de Pascal est faux. Donc, le pari de Pascal ne nous dit rien parce qu'on ne peut pas savoir dans quel modèle on est. Ça ne va pas plus loin et c'est juste pour répondre à cet argument-là. Il y avait un argument très simple qui était donné, pas du tout mathématiques d'ailleurs, bien avant que Borel, Lebesgue soient arrivés au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, c'est Diderot. Diderot, il a dit « Ah, c'est bien le pari de Pascal », mais il a dit, la phrase exacte, c'est « Un imam, on peut dire tout autant que Pascal ». C'est-à-dire que le pari de Pascal, on peut le faire pour tout et n'importe quoi. On peut aller, pourquoi il faudrait se convertir au dieu des chrétiens, c'était le but de Pascal, plutôt qu'au dieu musulman, au dieu juif, ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez tenir le même raisonnement. Et donc c'est ça le problème dans l'affaire de climat, c'est-à-dire qu'on va dire effectivement, on n'est pas sûr, mais ça peut créer des catastrophes. On peut tenir le raisonnement dans l'autre sens. On n'est pas sûr, mais si on agit, ça peut créer des
catastrophes. Donc votre position, quelle est-elle vraiment, Benoît Rito? Le problème, ce de quoi vous doutez si vous êtes climato-sceptique, c'est quoi? C'est de la nature scientifique des arguments avancés en faveur du réchauffement climatique? C'est de la responsabilité de l'homme dans ce réchauffement? C'est de la récupération politique, médiatique par ce.
Alors c'est beaucoup de choses à la fois. D'abord, il y a, pour être tout à fait clair, je tiens les carbocentristes, comme je l'appelle, ceux qui sont d'accord avec le GIEC pour aller vite, tous ces scientifiques-là, je les tiens pour des scientifiques sérieux. Et je l'ai écrit et je le maintiens. Je n'ai jamais
douté. Vous
voulez
traiter de cadavre qui marche. Cadavre qui marche.
Vous aviez dit que vous n'allez pas sur ce terrain-là, Jean-Pierre Dupuis, parce que sinon on parle du négationnisme.
Cadavre qui marche, ce n'est pas les gens, c'est la théorie. Il faut lire, sinon...
Répondez à la question, Benoît Rito, pour qu'on puisse avancer. Donc vous les tenez pour des scientifiques.
Donc, je les tiens pour des vrais scientifiques qui ont commis la même erreur que d'autres scientifiques avant eux, quand la politique est arrivée dans cette histoire, c'est qu'ils ont cru que leur savoir technique les mettait à l'abri de la récupération. Les scientifiques, d'une façon générale...
La récupération de quel ordre?
La récupération politique. Politique, l'instrumentalisation. Alors c'est pas une instrumentalisation au sens théorie du complot. C'est juste l'irruption dans l'arène des représentations collectives, des peurs collectives. Et ils ont été amenés à y jouer un rôle sans vraiment savoir pourquoi, sans y avoir été préparés. Et comme d'habitude, parce que ça n'est pas vraiment un phénomène nouveau. Il y a des exemples antérieurs comme ça. Comme d'habitude, ils se font rouler dans la farine.
Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. Je m'appelle Al Gore, je suis l'ex-futur président des États-Unis. Ça, c'est en Patagonie il y a 75 ans et le même glacier aujourd'hui. Le Kilimandjaro il y a 30 ans et l'an dernier. D'ici 10 ans, les neiges du Kilimandjaro auront disparu. En fait, ce n'est pas tant une question politique qu'une question morale. Les températures sont en hausse partout dans le monde et cela provoque des tempêtes de plus en plus violentes. La fonte est plus rapide dans l'Arctique. Si cela continuait, le niveau des océans monterait de 6 mètres. Et voici ce qui se passerait en Floride. Autour de Shanghai, 40 millions d'habitants. La région de Calcutta, 60 millions d'habitants. Manhattan, le mémorial du World Trade Center, serait sous les eaux. Pensez aux conséquences d'un exode de 200 000 réfugiés et imaginez qu'il soit 100 millions. Nous devons agir ensemble pour résoudre cette crise planétaire. C'est notre survie qui est en jeu.
Midnight Oil, Beds Are Burning, une des premières chansons 87 à éveiller les consciences quant à l'utilisation que les hommes font du territoire et de la planète. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h32. C'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrées au climat en harmonie avec toute la chaîne France Culture cette semaine. Et pour l'occasion, c'est du climato-scepticisme que nous parlons en compagnie du philosophe Jean-Pierre Dupuis, qui est également formé à l'École Polytechnique. Jean-Pierre Dupuis qui est l'auteur de « Pour un catastrophisme éclairé » publié en point, aux éditions du Point Essai, et Petite métaphysique des tsunamis, publié au Seuil cette année. À ses côtés se trouve le mathématicien et maître de conférence à l'Université Paris 13, Benoît Riteau, qui a fait paraître cette année la peur exponentielle aux presses universitaires de France. Alors Jean-Pierre Dupuis, que répondez-vous à l'argument que vient d'annoncer Benoît Riteau, à savoir que le problème n'est pas tant la teneur scientifique des carbocentristes comme ils les appellent, que cette récupération politique, y compris médiatique, dont on vient d'entendre un extrait avec le documentaire, le fameux documentaire d'Al Gore, on entend bien ici cette espèce d'insistance sur le catastrophisme futur et emphatique, qui est là pour le coup clairement une récupération politique, puisqu'il est en campagne au moment où paraît quand même ce documentaire, et qui du coup jette le doute quant au bien fondé, effectivement, des arguments de votre votre position, Jean-Pierre Dupuis, à savoir ceux qui, au contraire, pensent qu'il y a un réel problème avec le climat aujourd'hui.
Si vous voulez, la seule bonne manière de répondre à cette question, ce serait de faire ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent dans cette émission, c'est-à-dire à savoir faire un travail philosophique sérieux sur l'épistémologie des modèles mathématiques du climat. Bon, mais c'est très difficile à faire dans une émission, fût-elle une émission excellente de philosophie comme la vôtre, Adèle.
Mais c'est une manière de répondre à la récupération. La modélisation que vous voulez répondre
mais,
à la
mais oui, parce que la seule manière de justifier le travail de la climatologie, c'est de parler de ces modèles mathématiques et de l'incertitude qui est liée. La chose absolument extraordinaire, c'est que dans le livre de Benoît Riteau, il n'y a pas un mot sur les modèles du climat. Il y a des séries temporelles, il y a des corrélations. Je sais bien que vous êtes statisticien. Il y a ce mot sans doute apocryphe d'Einstein, pour un marteau, tous les problèmes en la forme d'un clown, n'est-ce
vous
pas
Vous n'avez bon, pas lu ça dans mon livre, je ne sais pas d'où vous le sortez.
Mais j'ai lu très attentivement, mais tout se ramène...
Je n'ai pas écrit ça.
Mais en tout cas, il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas un seul mot sur ce qu'est un modèle climatique, car c'est un modèle physico-chimique, thermodynamique. C'est extrêmement complexe d'ailleurs, comme vous l'avez dit, ça on est bien d'accord. Mais pourquoi est-ce complexe? Parce qu'il y a des tas de feedbacks positifs, je peux en donner quelques-uns peut-être, des tas de feedbacks négatifs, et l'ensemble crée un système auto-organisé, comme dirait mon ami, et peut-être le vôtre d'ailleurs Henri Atlan, ou Francesco Varela, un système autonome qui a des comportements propres, c'est-à-dire d'origine endogène, avec, comme disent les climatologues, deux forçages extérieurs. L'un qui est le forçage cosmique, essentiellement les variations de l'orbite terrestre autour du Soleil. Bon, tout vient de là, ça on est bien d'accord. Et l'autre, un forçage beaucoup plus récent, qui est l'action de l'homme. Bon, tout commence effectivement. Alors, il faudrait parler de ces modèles, si vous voulez. Bon, je sais que vous n'avez pas beaucoup d'estime pour les modèles. Je lis cette citation de votre texte.
Visiblement, on voit que vous avez bien appris ce que c'est que l'Inquisition.
Attendez, est-ce que
vous savez que aux négociations de Bonn pour le climat, en préparatoire à la COP 21, il y a un article qui propose la création d'un tribunal climatique. Assez bien placé parce que je vois bien que vous n'êtes pas en train de parler de modèles et de défendre votre avis. Vous êtes en train d'essayer de prendre une phrase que vous avez soigneusement sortie de mon livre. Parlez plutôt de ce que vous avez à dire plutôt que de faire de la publicité.
Les modèles ne sont rien d'autre qu'un grossier dessin du phénomène dont ils doivent rendre compte. Avoir besoin d'un modèle est souvent soit la marque de la trop grande difficulté qu'il y a à manier la théorie sous-jacente, soit plus grave, l'aveu de l'absence même de théorie. S'agissant du climat, nous sommes dans le second cas. Bon. Alors moi, écoutez, toute ma pratique scientifique et philosophique m'a appris qu'il n'y a de science que de modélisation mathématique. Enfin, imaginez la théorie newtonienne dont je parlais tout à l'heure, imaginez la théorie de la relativité générale d'Einstein sans modèle mathématique. La preuve, c'est que même les sciences de l'homme sont fascinées par la modélisation mathématique. Et la seule qui a un prix Nobel, qui d'ailleurs n'est pas un vrai prix Nobel, c'est l'économie. Ce qui montre d'ailleurs en passant que avoir des modèles mathématiques, c'est une condition nécessaire de la scientificité, c'est pas une condition suffisante, parce que les modèles peuvent être très mauvais.
Donc pour vous, il y a un modèle. Pour penser le climat, il faut faire appel à un modèle.
Mais ils existent, ces modèles.
Et Benoît Rito, est-ce que vous êtes d'accord
sur ça? Mais ils existent, alors parlons-en. Mais parlons-en donc de ces modèles.
Alors allez-y.
Alors. Et ça, il faut en parler. Bon, d'où vient le changement climatique? Alors, il vient d'abord des effets cosmiques, effectivement. Bon, tout le monde sait que l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan où la Terre tourne autour du Soleil, et la Terre est inclinée, comme une toupie, si vous voulez, qui tournerait et qui ne serait pas toujours perpendiculaire au sol. Bon, cet angle, nous le savons aujourd'hui, mais à vrai dire, nous le savons depuis peu, même si Rousseau en avait fait l'hypothèse. Cet angle varie au cours des siècles et surtout des millénaires. Bon, aujourd'hui, l'axe de rotation de la Terre donne sur la voûte terrestre une étoile que nous appelons l'étoile polaire et qui est en gros l'étoile alpha de la constellation de la Petite Ourse. Il y a 4000 ans, 5000 ans, à l'ère du bronze, c'était une toute autre étoile qui était l'étoile alpha de la constellation du dragon, et dans 3000 ans, ce sera encore une autre étoile. Bon, Rousseau, dans son discours sur l'origine des langues, fait l'hypothèse que l'origine de la civilisation, c'est précisément, il pensait que c'était un phénomène catastrophique brusque, un tipping point, comme on dit en anglais, qui a fait que la Terre, tout d'un coup, a vu son axe basculer, ce qui a créé les saisons, bien évidemment, et les gens se sont accumulés dans les régions tempérées, et c'est comme ça que la civilisation a été créée. Alors Rousseau n'avait pas complètement tort, mais aujourd'hui nous savons que cet axe de rotation change tout le temps. Enfin, change tout le temps, c'est à l'époque de millénaires. Or, c'est ça qui est le forçage cosmique, n'est-ce pas? Qui d'abord explique...
À l'origine des changements climatiques.
Mais absolument, tout vient de là. Donc c'est exact que...
Et alors en particulier, vous n'êtes pas d'accord,
Benoît. Mais attendez.
J'ai pas compris, c'est tout.
Attendez.
Vous parlez des saisons,
ce forçage. La meilleure manière de refuser de discuter, c'est de dire j'ai pas compris.
Bon. Alors dites-nous.
J'ai oublié mon.
Sur le modèle. Modèle climatique.
Non, mais alors bon.
Quel est donc ce modèle? Puisque visiblement vous êtes d'accord l'un et l'autre qu'il y a un modèle.
Il y a beaucoup de modèles.
Il y en a beaucoup. Alors.
Alors.
Donc les saisons se forment et ça c'est le forçage extérieur. Bon. Mais le système tout entier comprend des tas de choses. Je ne sais pas, par exemple, le principal gaz à effet de serre en volume, ce n'est pas le CO2, c'est l'eau.
c'est la vapeur d'eau.
Mais ça, je pense que vous serez d'accord là-dessus. C'est sur la nature même des modèles,
visiblement. La nature du modèle, excusez-moi. Alors, la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Et là, il y a un feedback positif qui intervient. C'est juste un exemple, n'est-ce pas, pour montrer combien tout ça est complexe, justement. Bon, plus l'atmosphère est chaude, plus elle absorbe de vapeur d'eau. C'est un théorème, enfin c'est un principe thermodynamique qui s'appelle de Clausius-Clapeyron, mais peu importe. Nous le savons tous, hein, d'ailleurs. Or, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Alors, vous avez donc une boucle circulaire, une causalité circulaire. Plus l'atmosphère est chaude, plus elle absorbe de vapeur d'eau, donc plus elle absorbe de gaz à effet de serre, et donc ce qui augmente encore l'effet de serre, justement, et la température. Un autre feedback positif, c'est par exemple le permafrost qui recouvre l'essentiel de la Sibérie et qui, lorsqu'il fond, du fait de l'augmentation de température, dégage du méthane, CH4, qui contribue lui-même, etc.
Mais Jean-Pierre Dupuis, est-ce que la présentation de ces modèles vous permet d'intégrer ou non la question de la responsabilité de l'homme dans ces changements climatiques?
Parce que c'est quand même une question qui est là,
pour le coup, décisive. Que le climat change, tout le monde est d'accord. Je crois qu'il y a une évolution du climat.
Bon. Vous avez un système de causalité multicausale, bouclé sur elle-même. Bon, voilà. Avec un forçage extérieur, qui a certainement été au point de départ de tout, qui était le forçage cosmique, dont je parlais à l'instant. Sur tout ça se greffe un forçage récent, qui date d'un siècle, quoi disons, et qui est l'action de l'homme. Donc il faut comprendre, d'où l'indétermination, il faut comprendre l'action de l'homme comme s'ajoutant à tout ce mécanisme endogène qui produit des chaos, des oscillations, etc. On est bien d'accord. Et c'est là qu'il y a une très grande difficulté, on est bien d'accord. Alors, il faut parler de ces modèles et de l'indétermination qui est liée. Sinon, on fait du baratin.
Alors, Benoît Rito, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors, disons que Jean-Pierre Dupuis a réussi à parler, je ne sais combien de temps, sans parler une seule fois d'un vrai modèle, c'est-à-dire de ce que c'est qu'un modèle. Là, vous avez présenté, disons, l'idée générale du GIEC. Vous nous avez parlé de forçage cosmique comme se résumant aux saisons et à l'inclinaison de l'axe.
C'était un exemple.
Alors, les saisons, ce n'est pas du tout quelque chose de récent. On les connaît depuis l'Antiquité. Donc, ce n'est pas du tout ça, le forçage. Et quand on parle du forçage cosmique, disons, on parle de toute autre chose. C'est l'influence du soleil, l'année galactique, et ce sont des choses complètement différentes, ça n'a vraiment rien à voir avec les saisons. Ensuite, donc, si on veut parler des modèles, effectivement, comme on n'a pas de... C'est une distinction qu'on peut contester, qui évidemment, si on veut la faire de façon fine, est difficile à faire entre modèle et théorie. Une façon simple de dire, c'est une théorie, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que vous étudiez directement. C'est-à-dire que la théorie de Newton, par exemple, ça permet de prévoir des choses ou d'anticiper des phénomènes parce que ça donne un cadre conceptuel qui dépasse simplement la petite expérience qu'on est en train de faire. C'est très grossier, c'est très conceptuel. Alors que le modèle, lui, il a son objet, il ne bouge pas de l'objet et il essaye de bricoler des mathématiques pour en rendre compte. J'ai bien conscience que c'est très rapide parce que le temps passe. Donc, ce qui est important de savoir, c'est dans le cadre du climat, c'est qu'il n'y a pas de théorie du climat. Il n'y a pas de théorie du climat global. C'est au point qu'on peut même se poser la question, est-ce qu'il y a un climat global? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Quand on parle de la température de la Terre, on peut donner un sens, mais est-ce que c'est vraiment un sens physique pertinent? On peut se poser la question de la façon de la calculer. Selon la façon dont vous déterminez une température dans un système très inhomogène comme la Terre, où il fait très froid ici, très chaud là, selon la façon dont vous mesurez, selon vous faites une moyenne, vous pouvez dire que ça se réchauffe ou que ça se refroidit. C'est un article assez intéressant, des mathématiques élémentaires, qui montre que ça dépend vraiment de la façon d'aborder les choses, et c'est pas clair. Donc on n'a pas de théorie. En revanche, effectivement, on a des modèles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes de par le monde qui ont fait tourner des modèles donc sur ordinateur où on essaye de partager la Terre en petits morceaux. Et donc chaque morceau, c'est une cellule. Et puis les échanges de chaleur, les échanges de toutes sortes, atmosphériques ou avec l'océan, etc., sont modélisés par des équations de la physique, tant bien que mal, parce que, à nouveau, on a affaire à un système extrêmement complexe. Alors, effectivement, les équations elles-mêmes, elles sont à peu près connues. En revanche, on sait bien que, d'abord, on n'est pas sûr d'avoir tout intégré, toutes les variables climatiques. Et il y a un débat qu'on doit avoir là-dessus. Ensuite, la façon même de faire tourner les modèles fait que une petite erreur, c'est à nouveau l'effet papillon, une petite erreur, et puis vous faites emballer votre système. Et enfin, le modèle, quand on prétend qu'il est prédictif, la moindre des choses, c'est de le confronter à l'observation. Et quand on le confronte à l'observation, on se rend compte que ça marche pas. D'ailleurs, le GIEC en 2013 juste avant la publication du rapport, avait fait une jolie figure qui montrait la divergence entre les modèles et les observations. Cette figure a été enlevée, donc elle était là dans le deuxième,
c'est un autre dessin
que vous n'avez probablement pas vu parce qu'il n'est pas sorti.
Non.
Parce qu'au dernier moment, il a été caviardé alors qu'il était.
Bon, mais ça, après, on peut pas. Voilà, non. Les erreurs se font.
Alors là, le graphe en question montrait vraiment que les modèles divergeaient complètement des observations. Et c'est quelque chose. Il y a beaucoup de façons de le voir. Hein. On nous pronostiquait la disparition de la banquise. Vous avez cité Al Gore tout à l'heure. Quand il a reçu le prix Nobel de la paix en 2007, lors de son discours, il a dit au rythme actuel, la banquise au pôle Nord, la banquise arctique, aura fondu en 2013.
Mais alors, une chose est de dénoncer le catastrophisme, une autre est de dire qu'aucune prévision n'est possible et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
On peut essayer de faire des prévisions. C'est la science, on en a besoin. On aura besoin de comprendre le climat, c'est quelque chose d'utile. On est très loin dans ce qu'on voit. Effectivement, les modèles ont un petit peu tendance à faire confondre la réalité avec le futur. On mélange le futur et le présent, en réalité, dans cette affaire-là. Quand vous regardez les courbes,
c'est le principe de la prévision. Ouais.
Oui, mais on n'est plus pas, on se souvient pas justement, on a oublié que ce ne sont que des prévisions et que jamais on a fait de prévisions du même genre. Donc c'est des prévisions sur des outils qui n'ont pas fait leurs preuves. Et quand on regarde les observations, c'est-à-dire le réel, on voit pas grand-chose d'inquiétant. On voit, évidemment, il se passe des choses et le climat est fait de plein. Enfin, il y a plein de courbes à voir, plein de données à étudier. C'est bien le diable s'il y en a pas une qui va un petit peu dans un sens ou dans l'autre. Mais dans l'ensemble, il se passe probablement pas grand-chose.
Alors Jean-Pierre Dupuis, est-ce que selon vous, les modèles climatiques vous permettent de prédire un changement d'une telle ampleur?
C'est quand même ça le fond de la question qu'on a envie de se poser. Rappelez-vous du mot de René Thom. Ce qui compte pour une science, c'est pas de prédire, c'est de comprendre, d'expliquer. Hein. La prévision, c'est autre chose. Bon, or, la question intéressante, c'est est-ce que nous comprenons le système climatique ou non? Je crois qu'on le comprend en très grande partie, mais c'est évidemment un système complexe. Je propose que dans les quelques minutes qui nous restent, nous parlions d'épistémologie. Je pensais que c'est ça le but de l'émission. Benoît Ritot, en passant, mais il n'en fait rien, cite Popper et Lakatos. Alors, je suis un lakatosien et j'explique ce que c'est. Toute science est promise à être fausse. Elle est potentiellement fausse, puisque si elle est science, nous dit Popper, c'est qu'elle est réfutable. Et la preuve que la science du climat est réfutable, c'est que des gens comme Benoît Ritot n'arrêtent pas de la réfuter. Donc elle est réfutable. Bon, simplement, le réfutationnisme de Popper a été appelé par son disciple dissident, Lakatos, un falsificationnisme naïf. Hein. Bon, c'est du genre, proposition qui se veut scientifique, tous les signes sont blancs, je montre un signe noir, ça suffit à falsifier, au sens anglais du terme, à réfuter la proposition de départ. Lakatos nous dit, mais il n'y a pas que Lakatos, il y a le français Pierre Duhem.
Il nous reste 1 minute 30, alors faites vite Jean-Pierre Dupuis.
Parce que l'argument
d'épistémologie, très bien, mais il faut que c'est un lien avec le climat, c'est quand même le sujet de l'émission.
Justement, oui. La science climatique, si c'est une science, elle est fausse. Elle est fausse, elle sera montrée fausse, de même que la théorie de Newton est considérée aujourd'hui comme fausse, puisqu'elle...
Elle repose.
Attendez, excusez-moi.
Quand vous faites un pont, vous utilisez quoi? Vous n'utilisez pas la théorie newtonienne? Bon. Vous n'avez pas pris le pont de l'Alma pour venir? Faites attention.
La théorie newtonienne est fausse.
Elle a un domaine de validité.
Au sens épistémologique du terme, au sens popérien du terme, puisque elle repose sur un principe qui est l'action à distance.
Sur le climat, par rapport.
Mais sur le climat.
Concluez sur le climat, parce que la discussion épistémologique va nous emmener bien loin.
Mais la science du climat, qui est une science, est donc potentiellement fausse. C'est ça qu'il faut bien voir. Bon, elle sera réfutée.
Mais là, vous semblez donner raison à Benoît Ritot dans ce cas.
Mais non, parce que lui, il, comme tous les climato-sceptiques,
vous
qui d'ailleurs
c'est bien entendu, quand vous parlez
vous
de moi, ce serait aimable.
Vous permettez de dire que, de toute manière, vous avez perdu la bataille de l'opinion, ce qui ne montre pas que vous avez tort.
C'est vous qui avez perdu.
Mais vous avez perdu la bataille de l'opinion. Même, vous avez le pape, le gouverneur de Californie, Obama, le président de la République française.
Mais moi, si vous demandez.
Ah, mais en termes scientifiques, vous avez également perdu. Bon, mais ça veut pas dire
que
vous
avez tort. Vous êtes au courant du sondage de l'ONU qui a demandé dans le monde entier, à toutes les classes d'âge et dans tous les pays.
C'est très difficile.
J'espérais que les principales problèmes.
J'espérais que cette émission serait l'occasion de parler vraiment de choses sérieuses, c'est-à-dire...
On vous en a donné l'occasion pendant 50 minutes, c'est pas facile. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, Jean-Pierre Dupuis et Benoît Ritot.
Once upon a time, science opened up a door. We would feed the hungry field till they couldn't eat no more. But the potions that we made touch the creatures down below, and they grew up in a way that we never seen before. Super nature.
Et on vous entend, Jean-Pierre Dupuis, vous avez perdu une voix à Benoît Rito. On va rendre l'antenne avant que vous en veniez aux mains. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il sera 10h51 dans quelques secondes. C'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, les 2 minutes papillons de Géraldine Besnard-Savoie.
Je dirais pas que c'est de la grande musique, c'est un peu mince. Enfin, c'est l'équivalent peut-être pour l'époque de ce qu'est la musique pop aujourd'hui. On disait d'ailleurs de mon arrière-grand-père que quand il dirigeait les bals de l'opéra, vers 11h du soir, sa cravate avait fait 3 fois le tour de son cou.
Quand Lévi-Strauss accorde cet entretien à Jacques Chancel en 1988, c'est toujours de manière détournée ou en négatif qu'il parle de lui, préférant évoquer la musique de son arrière-grand-père, Isaac Strauss, comme on l'entend, ou son incapacité à imaginer pour écrire, ou encore la différence entre l'anthropologie et l'ethnologie. C'est que, comme le dit sa biographie qui paraît aujourd'hui chez Flammarion, Claude Lévi-Strauss a souvent exprimé le peu d'identité individuelle qu'il s'accordait, et finalement le peu d'estime qu'il portait à l'individu de la modernité occidentale. Constat à la fois paradoxal pour quelqu'un qui avait l'ambition d'embrasser l'homme tout entier à travers l'anthropologie, mais aussi constat cohérent pour celui qui s'attachait à travers ce même projet aux variations plutôt qu'aux invariants des sociétés. Mais après tout, pourquoi vouloir savoir qui était Lévi-Strauss comme le veut cette biographie, ou connaître l'homme qui se cachait derrière le savant comme le veut la publication de ses lettres à ses parents qui paraît donc aux éditions du Seuil? Et bien dans celle-ci par exemple, on y apprend qu'il aimait fumer dans l'air glacial du matin, qu'il pratiquait en sus de la charcuterie la crème de Munster, qu'il n'avait en fait et de ses propres dires pas grand-chose à raconter si ce n'est qu'il avait envie de bavarder. Ses lettres, pour encore reprendre ses propres dires, dessinent ainsi un état continu d'oisiveté, une agitation vaine. Et pourtant, s'y révèle non pas tant ou seulement l'imbrication de la vie et de l'œuvre, le destin de l'anthropologie à partir de celui d'un homme, mais le geste même de Lévi-Strauss en forme d'autoportrait, ce qu'il appelait son quichotisme, c'est-à-dire son désir obsédant de retrouver le passé derrière le présent, cet art de comparer les variations dans le temps, de mesurer, je cite, les ravages exercés par le temps, laissant ainsi des souvenirs à la surface et d'autres tomber dans l'oubli.
Le quichotisme sera le mot du jour, merci Géraldine.
Quichotisme.
Donc c'est une Lévi-Strauss...
Double actualité, ouais. Une biographie par Emmanuel Loyer aux éditions Flammarion et des lettres à ses parents qui paraissent au Seuil.
Merci Géraldine. Et une nouvelle, une dernière, une troisième actualité aujourd'hui, c'est la parution, aujourd'hui même, du prochain nouveau numéro de France Culture Papier, Histoire du djihad et des Omeyyades à Daesh. En kiosque, en librairie, pour le modeste prix de 14,90€, vous retrouvez beaucoup de retranscriptions d'émissions de France Culture ainsi que des papiers inédits. Quant à nous, on se retrouve demain, c'est la fin de cette semaine climatique, mais on se retrouve demain pour le chemin du vendredi, l'actualité philosophique. Demain, ce sera le philosophe Laurent de Sutter qui viendra vous parler de son livre Magic, une métaphysique du lien. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement réécouter l'émission, mais également la télécharger, la podcaster, afin de la réécouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.